Donc vous êtes installé confortablement ?
Voilà.
Donc il faut répondre à toutes ces questions en vous laissant envahir par une sorte de torpeur lancinante, un peu comme de la ouate. Alors, si la ville de Lille était un fruit, alors n'hésitez pas à développer votre réponse.
Bah, la première image qui me vient, c'est une poire. Je ne sais pas trop pourquoi.
Alors, peut-être la forme de la ville ou...
Ouais, je vois la forme, un gros cul posé au sol et ça part en forme de poire vers le sommet. Et le lien avec Lille, je sais pas. J'ai pas réfléchi, c'est le premier truc qui venait.
Alors, si la ville de Lille était un animal, quel animal? Et c'est pareil, un peu pourquoi cet animal? Qu'est-ce qui vous fait penser à Lille en tant qu'animal?
Un petit insecte à quatre pattes qui trotte partout. Mais franchement, j'ai pas de lien avec la ville.
D'accord, un insecte à quatre pattes qui trotte la ville. Si la ville de Lille avait un gros défaut, quel serait ce défaut?
L'alcoolisme.
Et si Lille avait une qualité, même une seule?
L'amour.
Youpi, yeah! C'est une exposition montrée en avril et en mai à la Maison Folie de Lille Oisem. Expo proposée par l'ANPU, Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. On a rencontré son intrigant instigateur, Laurent Petit, conférencier burlesque et psychanalyste urbain.
Dans le cadre de notre travail, on détecte les névroses de la ville, on les étudie, mais on propose des traitements architecturaux, des traitements urbains. Et au fil des années, on a essayé de les rendre de plus en plus crédibles, de plus en plus accessibles, de moins en moins loufoques, justement, pour que les mairies puissent éventuellement se les approprier pour construire ces propositions. On utilise la métaphore de poser une ville sur le divan, donc de la faire parler. Et pour la faire parler, on a toute une série de rendez-vous, une petite 15-20, où là on fait un vrai travail de journaliste psychanalytique, c'est-à-dire qu'on écoute, on met en place des opérations divan. On place des divans, en l'occurrence des transats, sur un passage, un endroit de passage dans la ville. On forme un commando sur place pour recueillir les impressions des habitants par rapport à leur ville, via un questionnaire chinois. Donc si on psychanalyse Vierzon, on va demander aux gens si Vierzon était un fruit, quel fruit ça serait. Alors il y a des gens qui vont dire c'est une banane, pourquoi? Parce que c'est une ville qui donne la banane, ou ça va être une pomme mais elle est pourrie, ou ça va être un ananas parce que c'est un fruit qui fait peur à l'extérieur mais qui s'avère goûteux et fruité à l'intérieur. Donc suivant leur sensibilité, les gens répondent ce qui leur passe par la tête, parfois ils le justifient, et puis on demande si Vierzon était un animal, si Vierzon était une chanson, si Vierzon était un titre de film, qu'est-ce que ça serait. Comme ça, on a des réponses poétiques. Sinon, si de but en blanc on demande leur avis aux gens, ils vont nous dire qu'il y a des problèmes de crottes de chien, des places de stationnement et des problèmes de sécurité, c'est-à-dire des clichés qui sont pas spécifiques à la ville et puis qui sont pas très intéressants politiquement parlant. Même si avec des crottes de chien, on peut faire des choses intéressantes. Mais bon, comme de la sculpture, je sais pas. En tout cas, on recueille ces informations d'experts, cette parole populaire, et après on bâtit notre conférence de restitution. C'est-à-dire qu'on s'efforce de présenter les travaux, le résultat de nos recherches sous la forme d'une conférence PowerPoint qu'on essaye de présenter dans les mairies des villes analysées. Des villes analysées.
Et si la ville de Lille avait un ennemi? Alors, il faut voir l'ennemi au sens large. Hein. L'ennemi, ça peut être...
C'est une ville ou...
Non, justement, non. Ça peut être un ennemi. Comme...
Ah,
ça
d'accord.
Peut être,
qu'est-ce qui peut nuire à la ville de Lille? Je réfléchis. La deux, l'encrue.
Ouais. Il y aurait beaucoup trop de corps morts.
L'inondation.
Et si la ville de Lille partait en vacances, où irait-elle?
Ah. Ça lui ferait pas de mal d'aller s'aérer dans les Pyrénées, pour le coup.
Pourquoi dans les Pyrénées?
Bah, déjà prendre de l'altitude, voir du relief, voir des accentuations, voir des routes en zigzag. Un bon bol d'air, de la nature.
Alors je m'appelle Flora Thomas, donc je suis agent de liaison au sein de la NPU. Et voilà, donc je fais de la psychanalyse, je suis donc stagiaire en psychanalyse urbaine. Et donc je fais donc en ce moment une psychanalyse de Lille et une psychanalyse du monde entier. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la psychanalyse de Lille.
Alors quels sont les résultats un petit peu de cette psychanalyse? Là, vous avez des post-it en fait dans les mains?
Voilà, on a déjà commencé à disséquer donc tous les questionnaires. Et on a trouvé on a quelques perles. On a demandé par exemple quels étaient les parents de Lille, donc le maire et la père de Lille. Donc on a la maman Moule, la mère Ladeul, la mère Ubu, le père le Bois de Boulogne, le père Mauroy, la mère Aubry, le père Picon, Bruxelles et Paris. Bruxelles, la mère adoptive, et Paris, la mère biologique. J'ai du Karl Marx aussi. En ennemi de Lille, on a Paris qui revient beaucoup. Bien sûr, on a le chômage, on a la bière, les clichés. Dans les gros défauts, on a des choses intéressantes aussi. Attends, il faut que je essaie de trouver. Alors, on a un gros défaut physique, les protubérances graisseuses qui poussent, par exemple, à Lille 2. Alors, un ennemi, donc le monstre séparateur. Séparateur, avec énormément de bras qui construisent des murs partout pour séparer la richesse de la diversité. On a un petit dessin.
C'est beau. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle met le doigt sur le rapport entre des décisions politiques prises de manière plus ou moins démocratique et puis, de l'autre côté, le ressenti quasi émotionnel des habitants. Laurent Petit.
On peut voir les conséquences de l'urbanisme sur les gens, hein, ça c'est sûr, de choix urbanistiques qui ont été pris il y a 10, 20, 30 ans. Les réactions sont très paradoxales, mais parfois ça se ressemble à sur, par exemple, les cités qui ont été construites en périphérie des villes dans les années 70. C'est quasiment tout le temps la même histoire. C'est assez magnifique, enfin même, mais en même temps très triste. C'est qu'au début, il y a eu un enthousiasme de fou pour ces HLM, ces cités, parce que on était dans les années 60-70 et il y avait peu de gens qui connaissaient l'usage de la salle de bain, rien que ça. D'avoir un frigo, c'était un moment de bonheur que la rencontre des nouveaux habitants avec ces logements. Et il y a visiblement eu une bouffée d'enthousiasme qui se manifestait sous la forme de fêtes, de vie associative trépidante. Et puis au bout de 10 ans, il y a eu un basculement, souvent 10-15 ans, il y a un basculement dans les années 70. C'est une population qui passe de 25 à 35 ans. Elle se pose la question de devenir propriétaire. C'est là où peut-être les HLM ont raté le coche, c'est qu'ils n'ont pas offert cette possibilité aux gens d'acheter leur HLM. Et ça serait fidéliser la population. Parce que la population la plus élevée socialement a pris le parti d'être propriétaire, donc elle a quitté la cité. Quelque part, la population la plus dynamique, la plus active, elle est partie. Elle a laissé la population la plus déshéritée là. Et la population maghrébine aussi a eu le problème de ne pas passer le cap d'accéder à la propriété. Alors que parfois, financièrement, elle avait les moyens, mais souvent, les gens d'origine étrangère avaient peur de la banque, parce qu'ils ne savaient pas très bien lire, donc ils étaient un peu intimidés. Et d'autre part, ils vivaient dans la nostalgie du bled. Ils étaient toujours dans l'envie de rentrer. Et souvent, ces familles-là vont financer des maisons au bled, dans leur pays d'origine, plutôt que de passer à l'accession. Et ça va transformer la population assez vite, et puis ça va créer des ghettos avec des populations déshéritées qui restent à cet endroit. À cause de ce problème de basculement, d'accession à la propriété, c'est une histoire qu'on a vécue plusieurs fois. Et donc là, il y a un problème de choix urbanistique des HLM qui aurait dû, je pense, mais ça, faudrait que je fouille, peut-être vous connaissez bien ce dossier aussi, qui n'a pas offert la possibilité d'accéder à la propriété, je pense que ça aurait été intéressant.
Et puis aussi le beau chômage de masse quand même, qui est arrivé dans les années 70, qui est un facteur
qui a catalysé important. L'affaire. Mais c'était, ce qui est étonnant, c'est le début, c'était vraiment un golden age. Pour ces cités, le début était très bon. Alors que maintenant, on a tendance à les trouver un salubre, quand même des cités réussies, assez jolies finalement. Enfin voilà, pourquoi je disais ça en fait. Enfin, on voit des conséquences de choix urbanistiques. Enfin, le zoning aussi qui a fait énormément de dégâts, d'aller mettre les supermarchés à l'extérieur de ville, les pavillons, etc. Et à Montpellier, on a étudié la ville de Montpellier. On s'est aperçu que dans les années 70, justement, ils ont fait le choix de poser un centre commercial en plein cœur de ville. Et juste à côté, ils ont mis des logements sociaux dans le fameux quartier Antigone. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et là, on a des logements sociaux, un centre commercial, ce qui fait que les gens sont contents d'être là. Ils sont en cœur de ville tout en étant dans les logements sociaux. Et urbanistiquement, architecturalement, le parti pris est assez spectaculaire. Mais ça fonctionne au niveau de la mixité sociale et du mélange de population. C'est un chouette projet finalement. Alors que tout le monde en rigole vu de loin. Ce que vous connaissez Antigone, c'est un quartier grec un peu mussolinien avec des bâtiments énormes.
Avant donc de vous présenter les résultats de cette psychanalyse urbaine de la ville de Tours, nous tenions à insister sur le fait que cette opération s'inscrit dans un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Et ce, au travers d'un plan quinquennal qui verra donc son aboutissement le 24 décembre 2012, c'est un vendredi, vers 23h, à New York, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, un vin chaud vous sera servi lors de la présentation des résultats.
On pourrait dire, par exemple, une mairie ou une communauté de communes fait appel à vous en tant qu'expert ou artiste pour faire passer un peu la pilule, quoi. Vous voyez, une manière d'instrumentaliser, oui, oui. En fait, votre travail. Oui. Alors, comment vous vous gardez de cette pression, quoi? Est-ce que vous êtes conscient de cette instrumentalisation possible?
Oui, tout à fait conscient. On nous a souvent proposé de défendre des projets. Et on dit oui, bien sûr, on regarde le projet. De toute façon, on n'est pas là aussi pour se moquer des gens. Donc on regarde. Souvent, on se retrouve dans des villes qui sont, j'allais dire sous l'emprise, mais c'est pas le bon mot, mais dans lesquelles se font des projets de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est un peu notre agence rivale finalement, qui a beaucoup plus de moyens que nous et qui fait du travail. Bon ben, je trouve que on les rencontre à chaque fois et on trouve qu'ils sont courageux, parce que pour le coup, ils font vraiment des projets, alors que nous, on n'a vraiment pas lancé grand-chose, à vrai dire. Et ils nous demandent de parler de leur projet de l'ANRU. Bon, alors on en parle, mais après, une fois qu'ils... On remet pas en question les propositions de l'ANRU, non, c'est pas notre objectif, mais on surenchérit. On propose des projets peut-être plus ambitieux et plus délirants. Mais on ne remet pas en cause leur travail, parce que c'est quand même important ce qui se passe au niveau de la rénovation.
Mais bon, par exemple, ça pourrait servir votre œuvre à pointer du doigt sur des choses qui ne vont pas, quoi. Par exemple, bon, sur les rénovations urbaines, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les relogements, il y a beaucoup d'autres choses, mais...
C'est sûr qu'on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on était dans des villes où il y avait des projets de l'ANRU, ça avait l'air de bien se passer. Et on n'a pas été sollicité pour... on n'a pas senti que l'ANRU exagérait ou quoi que ce soit, donc on n'en a pas parlé. Peut-être que si on avait senti que l'ANRU exagérait, on en aurait parlé, mais là, ça ne nous est pas arrivé.
Laurent Petit, psychanalyste urbain et conférencier burlesque, rencontré à la Maison Folie de Lille Oisem lors de l'expo Youpi Yé. Plus d'infos sur les prochaines villes psychanalysées par Laurent Petit et ses acolytes sur le site anpu.fr. The book.